Messieurs, bienvenue dans cette émission. Bonjour. Paul, on pourra peut-être commencer avec un petit rappel commémoratif, tiens.
Oui, ben, ça fait 4 ans, jour pour jour, aujourd'hui, que des djihadistes ont commis un effroyable attentat à Charlie Hebdo, parce que les artisans de Charlie Hebdo étaient coupables, entre guillemets, selon eux, d'avoir exercé leur liberté d'expression et d'avoir voulu rire de la bêtise humaine. Terrible attentat contre Charlie Hebdo, contre aussi la liberté d'expression dans son ensemble, puis on ne doit pas l'oublier.
Non, exactement. Puis ça fait 4 ans aujourd'hui, alors on pense à tous ces gens-là qui ont perdu la vie pour exercer leur liberté d'expression. Commençons donc avec cette contestation en cours des lois québécoises canadiennes sur le suicide assisté, là, dont on parlait un petit peu tout à l'heure, justement la remise en question, si on veut, de l'aide médicale à mourir.
Oui, je rappelle brièvement les faits. Donc, c'est une requête qui a été déposée par Jean Truchon et Nicole Gladue. Ces deux personnes qui aimeraient obtenir l'aide médicale à mourir, ils répondent aux critères du jugement de la Cour suprême, parce que, comme on l'a dit tantôt, Louis, la Cour suprême, dans un célèbre arrêt, l'arrêt Carter, a donné droit au suicide assisté seulement selon certains critères. Donc, si tu souffres d'une maladie incurable, si tes souffrances sont constantes, si elles sont intolérables et si tu donnes ton consentement éclairé et répété pour obtenir l'aide médicale à mourir, tu devrais pouvoir l'obtenir. Selon la Cour suprême, ces deux personnes-là correspondent à tous les critères, mais ils n'y ont pas droit. Pourquoi? Parce que le fédéral a ajouté un autre critère qui apparaissait absolument pas dans le jugement de la Cour suprême, celui de mort raisonnablement prévisible. C'est un concept qui est un peu absurde parce que, écoute, la mort à partir de quand devient-elle raisonnablement prévisible? C'est 6 jours, 6 semaines, 6 mois. On pourrait dire que dès ta naissance, ta mort est assez prévisible, même si on connaît pas la date exacte.
Puis dès que, justement, le fédéral est arrivé avec cette loi-là, un peu faites un coin de table, là, parce que la Cour suprême avait dit, faites ça vite.
Il n'y avait pas beaucoup de temps à la décharge.
Exactement. Sauf qu'on avait, mis le doigt sur ce problème-là. Oui, le problème de prévisibilité de la mort.
Les sénateurs, entre autres, l'avaient dit, avaient montré leur pertinence à ce moment-là. Mais on comprend que le gouvernement Trudeau a essayé de faire une espèce de compromis politique parce que, d'une part, la Cour suprême le forçait à changer la loi. D'autre part, il y avait le Parti conservateur puis pas mal de Canadiens qui étaient frileux, qui étaient hésitants. Donc, ils se sont dit, mais on va couper la poire en deux puis on va ajouter le concept de mort raisonnablement prévisible. Mais on voit que ça a des conséquences concrètes. Il y a les deux personne, Jean Truchon, Nicole Gladue. Monsieur Truchon souffre de paralysie cérébrale. Madame Gladue, du syndrome post-poliomyélite. Et les deux n'ont pas droit à l'aide médicale à mourir. Et c'est pourquoi ils contestent les lois québécoises et canadiennes.
Il y a un cas similaire en Colombie-Britannique où, pour les mêmes raisons, toute la cause de la mort prévisible qui est remise en question. Mais là, il y a eu c'est pas un jugement, mais on demandait à la Cour suprême d'accélérer les procédures et la Cour suprême a rejeté ça en décembre en disant, évidemment, ils ne donnent pas de raison, mais ce que je veux dire, c'est que devant la Cour suprême de Colombie-Britannique, il y a aussi un autre cas où on tente de dire, le gouvernement fédéral ne devrait pas avoir le droit de recommencer ses arguments qu'il a pris lorsqu'il a perdu en Cour suprême. Or, c'est ce qui est en train de se passer, d'une part. D'autre part, il y a eu un cas en Nouvelle-Écosse, celui de Audrey Parker, qui était malade du cancer, qui était en stage 4, cancer du sein, et qui avait remplissait tous les critères, sauf que elle n'était pas encore assez près de sa mort imminente.
Ouais.
En autre partie, elle était dans une situation où elle pouvait perdre conscience ou ne plus être mentalement en état de prendre la décision finale. Et donc, elle est obligée de le prendre en avance pour s'assurer. Évidemment, ça a créé toute une controverse parce que elle est décédée donc de son propre gré, mais des mois plus tôt qu'elle l'aurait souhaité.
Et d'ailleurs, le gouvernement Legault voulait lancer une réflexion aussi sur l'application, par exemple, de la loi sur l'aide aux soins de fin de vie. Parce qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise, puis l'élargir un peu, justement.
Oui, tout à fait. Juste une précision pour clore les contestations en cours. La loi québécoise, la raison pour laquelle elle s'applique seulement pour les personnes en fin de vie, c'était pour une raison de compétence. Ouais. Le Québec n'a pas évidemment juridiction pour le code criminel. Donc, pour rester dans les compétences de santé, il inscrivait ça dans la continuité des soins, donc pour les personnes en fin de vie. Donc, le Québec n'avait pas vraiment le choix parce que sa loi, il l'avait adoptée avant le fédéral. Ouais. Mais il y a un autre débat, comme tu le soulignes, très sensible à venir, celui de l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes essentiellement souffrant d'Alzheimer, les personnes de démence. Et on se demande, est-ce que, parce que la question, c'est celle du consentement. On l'a dit, si tu veux obtenir l'aide médicale à mourir, il faut que tu donnes ton consentement de façon éclairée et répétée. Or, si tu souffres d'Alzheimer, ben, le problème de la maladie, tu peux pas le faire.
Tu peux pas le faire d'avance non plus. C'est ça le problème. Puis le fédéral s'est fait poser la question. Ils ont aucune intention de changer la loi à ce moment-ci.
Ouais, mais sauf que la réflexion est là-dessus, justement, à savoir est-ce qu'on devrait pas ouvrir le débat puis dire, ben, permettre aux gens de décider à l'avance, de dire, ben, voici, moi, je sais, par exemple, que je suis atteint de la maladie d'Alzheimer. J'ai encore ma capacité à décider par moi-même, mais dans 5 ans, peut-être pas, là, tu sais.
Ouais.
Alors, à ce moment-là, est-ce que je voudrais que ça s'applique à moi?
Puis, tu sais, la CAQ disait qu'elle voulait ouvrir le débat en campagne électorale, mais pour lui rafraîchir la mémoire, le débat, il est déjà en cours depuis pas mal d'années. La commission sur les soins de vie, qui avait été copilotée par Véronique Yvon en 2012, elle était en faveur de l'élargissement de l'aide médicale à mourir.
Ben, sauf qu'on ne l'avait pas inclus dans la loi parce qu'on craignait. Parce que tous les partis avaient dit on va faire un vote libre là-dessus.
Ouais.
Puis on avait craint justement que comme les députés votaient selon leur conscience, qu'il y ait peut-être une majorité de députés qui voudraient pas aller jusque-là. D'ailleurs, ça a été
prudent.
Il y a plusieurs députés qui avaient voté contre la loi sur l'aide médicale à mourir.
Même sans les déclarations anticipées.
Ouais.
Puis les déclarations anticipées, là, ça soulève quand même plusieurs problèmes. Pas juste des problèmes philosophiques de conscience, mais aussi des problèmes très, très pratiques. Là. On a raison de prendre le temps d'y réfléchir avant d'aller de l'avant avec ça. Je t'en donne seulement deux. Le premier, c'est parce qu'il y a des gens qui craignent que s'ils sont atteints d'Alzheimer, ben, leur vie va devenir très... Ils vont souffrir là, au quotidien, constamment. Or, la souffrance, c'est une expérience de conscience. Tu ne peux pas comprendre la souffrance sans l'avoir ressentie. Donc, c'est une chose de dire que si dans 10, 15, 20 ans, je souffre d'Alzheimer, je vais souffrir, mais tu ne peux pas vraiment savoir exactement quel sera ton état à ce moment-là. Puis le deuxième, les médecins, mets-toi dans leur peau. S'ils ont une déclaration anticipée qui dit à partir de tel moment, je désire mettre fin à mes jours, mais est-ce que tu vas être capable de le déterminer noir sur blanc très clairement le moment à partir duquel tu bascules dans un niveau intolérable de souffrance et donc que tu veux mettre fin à tes jours?
Ah, c'est pas évident, c'est un gros débat, mais qui doit être fait.
Tout à fait. Et il se poursuit, il est déjà bien engagé.
C'est justement parce que c'est compliqué qu'il faut faire un débat là-dessus.
Et ça sera un enjeu pendant l'élection fédérale. Moi, j'ai l'impression que le NPD va pousser là-dessus. Les conservateurs, on sait déjà où ils logent. La question clé, c'est qu'est-ce que le gouvernement fera? Certainement rien avant les élections, d'après moi.
Bon, sénatrice victime de hacking sur les médias sociaux, Carl.
Mais oui, le compte Twitter de la sénatrice conservatrice Linda Fromm a été piraté hier soir. Puis bon, le message du pirate, là, ça disait « Salut Linda, peux-tu nous conduire au centre commercial, s'il te plaît? » Et le tweet incluait une photo recto verso de son permis de conduire, donc les informations personnelles de la sénatrice, incluant son adresse. C'est un peu inquiétant parce qu'évidemment, bon, le hacking sur Twitter, c'est monnaie courante, mais on est dans une année électorale et ce groupe-là, il y a un groupe qui s'est réclamé de ce piratage, il se prénomme le Spang Gang, ils disent que ce sont eux qui règnent sur Twitter et ils disent qu'ils n'apprécient pas les politiciens corrompus. Évidemment, ça survient quelques jours après qu'une cyberattaque semblable a eu lieu en Allemagne. La chancelière allemande Angela Merkel elle-même a vu ses données personnelles divulguées en ligne. Donc, c'est un peu inquiétant, surtout qu'on entend souvent parler de l'ingérence de puissances étrangères dans les élections via les médias sociaux. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Ottawa a fait adopter une loi, la loi C-76, qui incluait une nouvelle infraction d'ingérence informatique pour empêcher les pirates informatiques d'autres pays de s'ingérer dans le processus électoral canadien. Mais quand tu regardes la loi et même quand tu regardes les commentaires du directeur général des élections ou du commissaire aux élections Yves Côté, tous les deux ont dit que cette nouvelle infraction empêchera pas beaucoup les pirates informatiques étrangers d'agir. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ça? On le sait pas.
Mais c'est parce qu'ils le font pas au grand jour, tu sais. C'est comme si tu disais.
Non.
Il y a des lois contre le vol au Québec, là, mais je t'annonce qu'il y a encore des vols, là. Sinon, il y a une police,
tu sais. Alors, là, évidemment, les autorités se posent des questions. On sait que le Centre de la sécurité des télécommunications a lancé un espèce de nouveau centre de cybersécurité.
Ouais.
Pour l'instant, on n'en connaît pas l'efficacité. Évidemment, c'est pas des gens qui diffusent grandement leurs informations, mais l'idée, ça serait que ce centre-là serait en charge de s'assurer qu'il n'y ait pas de piratage de masse pendant les élections. Mais évidemment, lorsqu'on commence à cibler des politiciens, des parlementaires, et qu'on divulgue leurs informations personnelles, ça montre jusqu'à quel point ça peut déraper.
Voilà. OK, on fait une brève pause, puis on revient tout de suite après. C'est là. Et Paul Journet, Carl Bélanger également, qui nous parle de politique fédérale, et Paul de politique provinciale. Et on va donc parler, entre autres, du fameux troisième lien à Québec.
On n'en parle jamais assez.
Est-ce qu'on fait un tunnel? En fait, un pont? Qu'est-ce que ça prend, en fait?
Ben, c'est une ça, la grosse question. En fait, il y avait deux grosses questions. Un, trois. Parce que tu viens d'en soulever. La téléportation, on me dit que non.
OK, d'accord.
Les deux autres, où on le construit, tu te souviens, il y avait le fameux débat vers l'Est ou vers l'Ouest. Le maire Labombe aurait préféré que ce soit vers l'Ouest. Il s'est rendu, je ne sais pas si c'est aux arguments de la CAQ, là, mais il a constaté que la CAQ avait une victoire totale sur la région et que sa position était claire. Donc, ça va vers l'Est. Il reste une question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un pont, un tunnel, un pont-tunnel?
Est-ce qu'on inclut le pont de l'île d'Orléans là-dedans?
Ouais.
Est-ce qu'on l'inclut pas? Est-ce que c'est un autre pont? C'est complètement...
Parce que pour nos auditeurs qui sont peut-être moins familiers avec le coin, si tu fais un pont, tu risques d'empiéter sur l'île d'Orléans. Puis il y a plusieurs gens que ça inquiète parce que l'île d'Orléans, ne serait-ce qu'à cause de sa beauté...
C'est pas devenir une autoroute, là. C'est pas de bon sens de penser que l'île d'Orléans pourrait devenir une autoroute en ayant un pont d'un bord à l'autre du fleuve.
Et non, ça c'est sûr. Ça. On veut préserver le
paysage. Le maire de Lévis est dans le camp de ceux qui disent, écoutez, là, faut faire attention avant d'aller saccager l'île d'Orléans. Peut-être qu'un tunnel, ce serait préférable. Or, les camionneurs viennent de faire entendre leur voix. Ils disent, si c'est un tunnel, certains de nos travailleurs ne pourront pas l'emprunter à cause des restrictions sur les matières dangereuses.
Ouais.
Puis les matières dangereuses, là, la définition est assez large. Je les ai même entendu parler d'alcool, de bouteilles d'alcool là-dedans.
Ah oui.
En tout cas, ça n'est pas... C'est...
L'alcool est un poison qui tue lentement.
Ben,
ça tombe bien,
c'est pas pressé. Et tu le diras jamais assez, lui. encore un propos responsable de ta part. Et donc, tu vois que ça va devenir compliqué dans le détail. Là, quand on va venir à l'étape, on va devoir choisir exactement où on s'en va. Puis c'est aussi compliqué à l'intérieur du gouvernement, parce qu'on voit que les élus qui ne viennent pas de Québec n'ont peut-être pas le même sentiment de l'urgence d'un point de vue stratégique de réaliser cette promesse-là. Souviens-toi, Christian Dubé, président du Conseil du Trésor, donc celui qui détient les cordons de, qui contrôle les cordons de la bourse. Et lui, il avait dit, ben, écoutez, si l'étude nous dit que ce n'est pas faisable, ben, on va peut-être y réfléchir avant de le faire.
Ouais. Ce qui est assez logique. Mais... Il donnait l'exemple du REM, d'ailleurs.
Oui, oui.
À l'époque où il était à la Caisse de dépôt, il était un des responsables de ce dossier-là. Puis il dit, ben, écoutez, avant de s'engager dans ça, on a regardé voir si la faisabilité économique existait. Puis il donnait cet exemple-là pour justifier le fait que, ben, pour le troisième lien, ça va prendre des études qui nous démontrent que c'est faisable économiquement. Parce que tu peux faire n'importe quoi. Hein. Je veux dire, le génie humain n'a pas de limite, là. Mais il faut que ce soit
mais le génie humain, des fois, est écœuré de payer.
Exactement. Le génie humain, ça fait prendre souvent par un sans-génie, finalement.
Donc, ça arrive.
Ça arrive. Alors, le débat est lancé, tunnel ou pont. Ben là, le gouvernement va décider.
Oui.
Au plus cher. Bon, OK. Carl, les partielles fédérales, ben, la partielle fédérale toujours pas déclenchée, celle qu'on surveille particulièrement, c'est Burnaby, évidemment. Là,
oui,
raison...
Burnaby South.
Ben oui.
C'est le siège qui a été choisi par le chef du NPD, Jack Mitzing, pour faire son entrée à la Chambre des communes. C'est un des quatre sièges qui sont présentement vacants. Et on se rappellera qu'à l'automne, le bureau du premier ministre avait déclenché une partielle dans le comté de Leeds, Grenville, Thousand Island. Mais il n'avait pas déclenché les partielles pour Burnaby South, Outremont et York Simcoe. Il y a un autre siège qui s'est ajouté depuis ce temps-là dans les mots de la Dissimette. Trois de ces sièges-là appartiennent au NPD. Et là, du côté du NPD, Jack Mitzing est en campagne. Il y en a assez. Il dit qu'il faut que ces partielles-là soient déclenchées. Il y avait un ralliement hier à Burnaby South. On peut écouter ce qu'il avait à dire.
They're not doing this in the best interests of Burnaby South. They're not doing this in the best interest of Canadians. They're doing it in their own political interest.
Ben, en fait, que l'intérêt de Justin Trudeau là-dedans, c'est de dire, ben, pourquoi je me mettrais Jack Meeting à la Chambre des communes avec moi pour venir m'écœurer pendant la période des questions, alors qu'on est tellement mieux quand il est à l'extérieur, tu sais.
Oui, c'est un point de vue. L'autre point de vue, évidemment, c'est que les libéraux veulent pas que Jack Meeting perde cette élection partielle-là. Donc, il le laisse en place le plus longtemps possible, parce qu'évidemment, un changement de chef pourrait être pire pour le Parti libéral. Il y a toutes sortes de théories, mais la réalité, c'est que j'ai rarement vu un premier ministre, en fait, mais je me souviens pas, moi, d'avoir vu un premier ministre qui empêchait un chef d'un autre parti de faire son entrée dans une législature en retardant comme ça une élection partielle. Et du côté du NPD, ben, à tout le moins, on passe à l'offensive. Il faut dire aussi que les conservateurs, vendredi, le chef Andrew Scheer a fait la même demande qu'il fallait immédiatement déclencher ces élections partielles-là. Et à ça, faut ajouter évidemment le cinquième siège qui est pas tout à fait vacant, celui de Nicolas Diorio dans Saint-Léonard-Saint-Michel, qui a dit qu'il allait démissionner, mais qui finalement il retarde, puis là il a changé d'idée, puis finalement il va démissionner le 22 janvier. Pourquoi le 22 janvier? Parce que la nouvelle loi électorale qui est adoptée dit que si tu démissionnes à moins de 9 mois des élections...
T'as pas besoin de faire une partielle.
Besoin de faire une partielle. En fait, tu ne peux pas déclencher une élection partielle. Et donc, dans le cas de Saint-Léonard-Saint-Michel, on serait pas besoin de le faire. On n'aurait pas besoin de le faire. Mais pour les autres comtés, particulièrement pour Burnaby South, évidemment, le NPD tient mordicus à faire élire son chef. Et il faut dire que ce ne sera pas facile nécessairement pour l'autre comté de l'ancien chef, celui de Tom Mulcair, dans Outremont. Les libéraux partent favoris. Le NPD, ça va être difficile pour eux autres. Donc, c'est d'autant plus important que Jack Meeting l'emporte dans Burnaby South.
Ouais, voilà. Alors, pour lui donner de la visibilité un peu pendant la campagne électorale. Puis, mais généralement, il n'y a pas de pacte de non-agression au fédéral?
Mais c'est ça l'histoire. Mais le NPD a jamais joué avec ce jeu-là. Il a toujours présenté des candidats contre les autres chefs. Bon. Fait que là, aujourd'hui, il se retrouve avec le petit bout du bâton.
Messieurs, merci beaucoup. On se parle demain.
Merci, Louis.
Salut.
On s'arrête pour la pause des nouvelles, puis on revient tout de suite après. Restez là.